RFI.
Celle qui est sous la maison aussi, c'est celle qu'on a faite hier.
Ah oui, d'accord, on est de l'autre côté.
Il n'y a que ça qui est mûr.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Tu coupes. Ça, c'est
le pédoncule, quoi.
Bonjour, bienvenue. Les pieds dans les vignes du Beaujolais, au nord de Lyon, en France, dans une ambiance de vendange, des seaux posés pleins de grappes, l'anse qui rebondit, vous savez, sur le seau, on vient d'entendre, une serpette et le sucre du raisin qui colle les doigts. On est juste à côté de Beaujeu, au domaine de la Croix-Charnay. Les pierres y sont roses dorées, on ferme les yeux, nous y sommes presque, vous trouvez pas ? Bonjour Gabriel.
Ah là là, c'est merveilleux. Bonjour Clément.
Gabriel Bizzavone, bienvenue. Vous êtes journaliste, vous êtes critique, vous êtes conférencière et professeure et autrice d'une petite éloge du vin aux éditions Les Pérégrines. On va commencer par sortir de ce studio puisqu'on était dans les vignes. J'aimerais bien que vous nous aidiez à nous évader et que vous nous emmeniez là où vous voulez. Que vous nous racontiez quel temps il fait, quelle température, quels sont les paysages, avec qui on est et qu'est-ce qu'on mange.
Alors après avoir fait l'éloge justement de votre studio que j'adore, on doit déjà en sortir. Mais
on va y revenir.
Je m'exécute avec joie. Alors, j'aimerais peut-être vous emmener chez vous dans le Beaujolais, mais je vais vous emmener plutôt chez moi, donc en Corse, au cœur du vignoble de Patrimonio. Avec une belle vue sur la mer, il fait à peu près, allez, 28 degrés, mais un petit vent frais, vous savez, en Corse, il y a une combinaison de plein de vents différents qui viennent assainir le vignoble. Donc, devant nous, qu'est-ce qu'il y a à votre avis ? Une oursinade, bien sûr.
Bien sûr.
Et puis, une grande bouteille de Patrimonio blanc pour aller avec les oursins, justement, peut-être un Muriel Giudicelli, si je peux donner le nom d'une grande vigneronne de l'appellation Patrimonio. Vous êtes avec mon compagnon et moi, puisqu'on vous a invité. Et puis,
c'est le matin,
quelques amis.
Pour les oursins, c'est le matin ou on sera plutôt la mi-journée ?
Oui, c'est le midi. Peut-être qu'on vient de les pêcher selon la saison. Et voilà, et on va aller se baigner dans l'eau qui sera assez fraîche quand même, à cette saison qu'on imagine être quand même une demi-saison. Voilà.
On est bien, moi je croque. Gabriel, je voudrais savoir, votre premier souvenir de vin, lequel est-il ? Peut-être avait-il une couleur d'ailleurs ?
Alors mon premier souvenir de vin, effectivement, c'est un souvenir à Noël, de la couleur d'un très vieux sauterne. Mon grand-père était négociant en vin, avait un vignoble aussi. Et puis là, il sortait des grandes bouteilles pour les fêtes de Noël. Et puis je me souviens de ce sauterne qui devait avoir plus de 50 ans d'âge, qui était d'un ocre vraiment profond, d'or, de rubis, tellement c'était brillant. Ça m'avait fasciné. Ça, c'est mon tout premier souvenir de vin, j'avais pu y goûter un petit peu d'ailleurs. Voilà, c'était cette espèce d'or un peu ambré, liquéfié dans le verre, qui était sublime, qui brillait beaucoup.
On l'imagine sur la table au soleil.
Qui m'attirait beaucoup enfant, effectivement.
Comment vous est venu le goût du vin ? Comment vous vous êtes dit, ce sera mon métier ?
Alors, plusieurs facteurs combinés. Déjà, j'avais mon grand-père qui travaillait dedans. Et puis, ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours trouvé ça hyper cool, hein, tout simplement, comme domaine d'activité. J'ai des sens très développés aussi, donc j'adore aussi manger, etc. Ça faisait partie d'un tout. Pour moi, le vin, c'était vraiment le produit sensoriel par excellence. Ça m'a toujours fascinée, aussi loin que mes souvenirs remontent. Mon premier dossier scolaire, d'ailleurs, à l'école, c'était sur le vin. J'ai vinifié pour la première fois à 9 ans avec ma maîtresse d'école qui a pris sa retraite quelques années après pour devenir vigneronne, justement. Et puis, je trouvais ça extraordinaire, mais il m'a fallu quand même arriver à l'âge adulte pour me dire, allez, je trouvais ça trop cool pour en faire mon métier à la base. Je me disais, c'est pas très sérieux comme domaine d'activité. Donc, j'ai déjà fait des études d'économie, 5 ans. Et puis après, bon, tous les métiers à quoi ça aboutissait, même si ça sert un petit peu à tout de faire des études d'économie, m'ennuyaient un peu. Je me suis dit, allez, je m'en fiche. J'ai rempli mon contrat, j'ai fait des études sérieuses. Maintenant, j'ai repris dans la foulée des études sur le vin.
Est-ce que ça porte justement cet imaginaire-là ?
Le vin, c'est forcément joyeux. En tout cas, pour moi, c'est forcément sensoriel. C'est forcément lié justement à cette plurisensorialité que ça peut évoquer, comme le fait la cuisine aussi, dans une certaine mesure. Mais là, on n'a pas la maîtrise sur le vin. Il y a quelque chose de magique. Un plat, on peut le contrôler dans une certaine mesure, si on a les bons ingrédients, etc. Le vin, bah, c'est quelque chose, on sait ce qu'on va mettre dedans. C'est une co-création avec l'univers, avec Mère Nature, avec Dieu, ça dépend comment vous souhaitez l'appeler, mais en tout cas, il y a quelque chose de magique, ne serait-ce que dans la fermentation. La fermentation est incomprise, et le processus de fermentation alcoolique comme malolactique sont bien mystérieux.
Comme quoi ?
Malolactique, c'est,
merci, ça c'est, veut dire quoi ?
C'est un second type de fermentation qui subvient après la fermentation alcoolique, c'est-à-dire la transformation des sucres en alcool, qui n'advient pas forcément d'ailleurs. C'est une option, on peut l'enclencher ou elle peut s'enclencher toute seule, ça dépend comment on procède. Et c'est une transformation qui arrive au niveau acide. Lors de la transformation alcoolique, je suis désolée d'être si technique avec vous.
Non, c'est le début, c'est la naissance du vin, parce qu'il faut forcément une fermentation, voire donc une double
acides,
fermentation.
Des raisins vont se transformer déjà lors de la fermentation alcoolique, une première fois. On va passer de l'acide citrique, le même que celui dans des citrons, vers l'acide malique, le même que celui dans des pommes. Mmh. Et lors de la fermentation malolactique, l'acide malique va se transformer en acide lactique, le même que celui du lait. C'est pour ça que on va avoir la même dose acide, mais on va avoir une perception beaucoup plus ronde, beaucoup plus lactique, justement, et ça va décroître, en tout cas, la perception acide d'un vin.
J'aime bien que vous parliez de magie quand vous parlez de vin, et sans doute de la vigne aussi, parce que ce sont deux mondes intrinsèquement liés, la magie et ce vin. La vigne qui donne la vie à un vin, et depuis des millénaires, c'est un monde très ancien, et cette fermentation, elle est tout aussi ancienne. Est-ce que dans cette correspondance entre le sol, la vie qui entoure la vigne, les champignons, les levures, comment est-ce qu'on fait tout ça ? Est-ce qu'on est justement dans la concrétisation d'une vie dans la vigne?
Exactement. En fait, la vigne et le vin répliquent le cycle vital d'une façon assez parfaite. Déjà, les âges de la vigne vont se retransmettre et il va y avoir des comportements, selon l'âge de la vigne, qui vont être très liés au comportement de l'homme. C'est-à-dire, enfant, la vigne va faire son éducation. Elle peut produire un peu de raisin, mais ils ne seront pas destinés à faire du vin parce qu'ils ne seront pas encore arrivés à maturité suffisante. Puis elle va avoir une crise d'adolescence. Là, le végétal va devenir fou. Elle va croître dans tous les sens. Elle va se déployer d'une façon un peu frénésique. C'est cette énergie de vie adolescente avec les petites crises qui sont associées. Puis on va arriver à l'âge d'adulte de la vigne, finalement. Où là, bah c'est sur cet âge adulte, hein, comme un capital humain, qu'un vignoble va compter, en tout cas économiquement, le plus. Et puis elle va arriver effectivement au stade de la vieillesse, mais à peu près au même âge, dans des mêmes distances d'âge que l'homme, hein, finalement, à quelques années près. Mais elle va arriver dans sa vieillesse, et là elle va être moins productive, mais elle va avoir gagné en sagesse. Donc les raisins vont être plus concentrés, ça va être moins prolifique, mais ça va être plus concentré en goût.
J'aime bien parce que j'aimerais qu'il y ait des caméras parfois dans son studio, qu'on puisse voir vos gestes qui semblent caresser comme quelqu'un d'assez bienveillant par rapport à la vigne dont il parle en l'occurrence.
Je suis méditerranéenne aussi, donc je...
Et on sent gestes. Toute la compassion que vous avez pour cette vieille vigne qu'on va garder justement, qui va porter en elle toute cette histoire d'un vignoble, puisqu'après cette vieille vigne, qu'est-ce qu'elle devient ?
Ça dépend. Ça, c'est les décisions du vigneron. Souvent, elle est renouvelée bien avant atteindre un très vieil âge. C'est quand même un patrimoine qui peut être très intéressant. En Espagne, par exemple, l'Espagne, c'est je crois que cette année, c'est le troisième producteur en volume au monde. C'est le premier en surface de vigne depuis très longtemps parce qu'ils ont un patrimoine extraordinaire de vieilles vignes. C'est le cas aussi dans plusieurs pays d'Amérique latine qui ont retrouvé, après des années finalement de dictature, un patrimoine oublié de très vieilles vignes. C'est le cas au Chili avec le cépage qui était venu avec les conquistadors. C'est un cépage, alors vous qui êtes du Beaujolais, qui pourrait être au plus proche du Gamay, on va dire, qui est très intéressant, qui a été complètement oublié, qui a été mis complètement de côté, puisque le Chili, comme d'autres pays d'Amérique latine, hein, a été sous règne militaire jusque les années 90. Et quand il s'est rouvert au monde, finalement, avec une monnaie complètement dévaluée, ça a attiré beaucoup de capitaux. Et puis, ils ont voulu s'orienter vers une viticulture qui était plutôt industrielle. Si je vous donne un exemple, par exemple, en France, on a un modèle dominant en viticulture qui est un modèle familial, indépendant. On a 59 000 petites propriétés viticoles indépendantes. Il n'y a pas un acteur qui a une part du gâteau qui soit large, qui dépasse 1%, 2%. Versus, au Chili, si vous prenez les trois premiers producteurs du Chili, ils vont produire plus de 85% des volumes de vin chilien. Vous avez des gros, gros acteurs. À côté de ça, il y a des tout petits acteurs lilliputiens qui commencent à exister et qui veulent justement réintroduire ces vignes qui ont été complètement oubliées depuis les conquistadors jusqu'aux années 90, finalement,
faute d'usage. Oui, parce que cette vigne, elle date des conquistadors, cette vigne.
Certaines, oui, tout à fait. Et puis, elles ont été même arrachées comme de la mauvaise herbe quand le pays a voulu s'orienter vers une viticulture de volume, finalement.
On revient par ici. Pour retourner à la fermentation, elle est favorisée de quelle matière? Comment est-ce qu'on fait en sorte justement de générer la vie, de l'entretenir, de la soigner? Parce que j'ai quand même l'impression, en tout cas quand je vois cette vigne, qu'elle est particulièrement coriace, tenace. C'est une plante incroyable, cette vigne.
Alors la vigne, effectivement, et c'est ça qui a fait sa renommée aussi, c'est la seule plante qui peut pousser sur des néants nutritifs en termes de sol et malgré tout produire un fruit qui est comestible. Ça, c'est une force. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que la vigne s'est propagée. C'est une des raisons qu'on oublie souvent. Mais la vigne, ça pousse partout. Ça a besoin de quasiment rien. Un peu d'eau, et c'est tout. Hein. Moi, j'en fais pousser dans ma cour intérieure parisienne, qui pourtant est très sombre. C'est la seule plante qui est bien voulu y pousser. Ça peut pousser dans le désert, ça peut pousser sur des sols très, très durs. Ça s'infiltre un peu partout. On peut l'aider à s'infiltrer aussi. Et c'est une plante qui, si elle est un tout petit peu hydratée, qui est très facile à vivre. Et ça explique aussi, nous on a pas mal de sols pauvres en France, comme dans l'Europe, ces sols pauvres sont souvent très plantés de vignes. La vigne, en fait, contrairement à plein d'autres cultures, va aimer ces sols pauvres. On dit qu'il faut stresser la vigne pour la pousser à enclencher ses mécanismes de survie et donc à l'encourager à se délier au maximum à la recherche d'hydratation. Et ce faisant, elle va puiser des minéraux qui vont être dans la terre et donner in fine ce goût assez minéral, ce goût de la terre finalement, au produit final. En tout cas, si toute la chaîne de confection du vin est bien respectée et faite dans le respect de l'environnement, dans le respect justement du fruit finalement et de la qualité du fruit.
Canac, Maria Siga et Audi, un titre de la playlist de RFI choisi avec passion et enthousiasme par l'équipe. Vous nous rejoignez, bienvenue, vous écoutez Le Goût du Monde avec Gabrielle Vidzavon, autrice de cette petite éloge du vin aux éditions Les Pérégrines. Ce parfum, cette couleur.
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien, Château Léoville-Lascaz, 1953.
Gabriel Vidzavone, vous l'avez reconnu, un extrait de L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès. J'en profite pour rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut en boire avec modération. De quoi cet extrait, Gabriel, est-il le symptôme, le reflet ?
Alors il est fabuleux ce moment déjà, parce que Louis de Funès, tout simplement, hein, je crois que c'est un moment collector pour tous les amateurs du vin. Maintenant, c'est quand même un moment complètement imaginé. Je parle dans le livre pas mal de la dégustation à l'aveugle et en quoi je la trouve un petit peu surcotée, justement. Alors il y a une citation aussi de Pierre Desproges que j'adore, qui dit « Je connais même un expert qui peut reconnaître le vin au bruit qu'il fait en coulant dans le verre. » Bon, dans la réalité, c'est pas comme ça. Bien sûr qu'on peut reconnaître des vins. L'exercice est surfait parce que travailler dans le vin, dès que j'arrive chez des amis, on me dit « Ah, on t'a préparé une dégustation à l'aveugle. » Je dis non, non, merci, j'ai envie de fuir en courant. Donc. Et puis surtout, dans l'océan de diversité des vins qu'il y a, puisque on fait du vin à peu près partout dans le monde, hein. Je vous disais, c'est une plante qui est très facile, donc et on fait du vin en Suède, on fait du vin au Cameroun. Alors bien sûr que ce sont des productions qui sont epsilon, hein, qui sont minuscules, mais dans tout l'univers et l'océan de choix de vin, ça commence à être très très compliqué de reconnaître les produits. C'est possible, mais c'est absolument pas systématique, ou en tout cas clairement pas ni au bruit ni à la couleur.
Les femmes et le vin, Gabriel, fallait-il être veuve pour trouver sa place dans le vin ?
Alors je parle effectivement dans le livre de cette succession de veuves champenoises qui était assez fascinante. Certains les imaginaient même comme empoisonneuses, parce qu'on a la veuve Clicquot, la veuve Pommerie, la veuve Bollinger. Bon, au bout d'un moment, on peut se demander. Et c'était à l'époque.
C'est la maison de champagne, on est d'accord.
Oui, de grandes maisons de champagne qu'elles ont dû diriger, puisque. En ce qui concerne la veuve Clicquot, par exemple, la pionnière et sans doute la plus connue de ces veuves, la seule configuration où elle pouvait être chef d'entreprise, c'était le veuvage. Le code napoléonien interdisait aux femmes de travailler, sauf dans ce cas-là. Donc effectivement, bon voilà, ça c'est un hasard malheureux, mais qui s'est avéré avec l'histoire être bien heureux pour ces maisons de champagne qui ont connu le succès à travers ces grandes femmes d'affaires. Qui étaient tout sauf des petites choses frêles. Il y a pas mal de femmes, il y en a de plus en plus. Il y a pas mal de vigneronnes.
Et quand on est critique comme vous,
alors,
est-ce
quand
qu'on
on
vous
est
prend
critique,
pour celle qui accompagne ou...
Alors, au début, oui. Quand j'ai commencé à travailler, oui. C'était quand on critique le produit, c'est plus compliqué. C'était plus compliqué. Maintenant, il y a quand même plus de femmes, notamment dans les pays anglo-saxons, où ils avaient moins cette configuration et cet imaginaire très masculin du vin. Donc, il y a eu quelques pionnières, des journalistes assez connus, en Angleterre notamment.
Des femmes sommelières aussi, de plus en plus.
Des femmes sommelières, il y en a beaucoup. Mais effectivement, dès qu'on touchait, dès qu'on critiquait le produit, on attendait surtout la femme à la communication, au marketing et aux relations presse. Moins dans ce qui allait être un jugement... qui pouvait tomber sur un vin. Aujourd'hui, ça s'est un peu détendu. Quand je suis arrivée, je l'ai senti parfois. Je l'ai senti rarement parce que aussi je voulais pas trop y donner de l'énergie. J'ai tendance à penser que plus on met d'énergie dans quelque chose, plus on l'entretient. Donc j'avais tendance à plutôt l'ignorer et à faire mon chemin.
En tout cas, vous avez décidé de faire un tour du monde du vin. C'était en 2010. Un voyage, une année, alors je vous cite, hein, j'ai absorbé l'expérience comme une vigne assoiffée par la canicule d'août, épouse les pluies de septembre. J'ai goûté des milliers de vins du monde entier, des plus fabuleux aux plus abjects, trépigné dans près de 500 chais, rencontré des centaines de professionnels, observé un nombre incalculable de cuves en inox. J'ai dormi dans les chambres cossues de vastes châteaux en pierre de taille, comme dans de poisseux dortoirs bondés. Non mais quelle aventure ! Une année à sillonner le monde.
Un peu plus d'un an, effectivement, 18 pays,
Alors que vous n'y connaissez rien, vous écrivez dans votre livre, je n'y connaissais rien.
Mais oui, je ne connaissais pas grand-chose. C'était dans le cadre de mes premières études que j'ai faites sur le vin. Et j'ai été comme ça, finalement, jetée dans la barrique. Hein. on me dit souvent, ah, tu es tombée dedans comme Astérix. Non, mais je me suis jetée dedans par moi-même. Et effectivement, c'était très frais parce que j'avais fait des études avant qui étaient assez... technique, théorique, scientifique, et puis où on devait apprendre des choses par cœur, ou bon, ce qui est nécessaire. Hein. J'ai fait d'ailleurs ce travail par la suite sur le vin, d'apprendre des choses par cœur, parce qu'on peut pas non plus contourner le fait d'avoir un certain bagage de connaissances, mais en tout cas là, d'aller voir, d'aller visiter, de me rendre compte à quel point le monde du vin était diversifié. En France, on a tendance à penser qu'on ne fait du vin qu'en France. Mmh. Or, il y a une richesse internationale qui est absolue. Il y a des façons de faire dont aujourd'hui on s'abreuve, on s'inspire. Il y a des échanges de compétences. L'exemple que j'aime bien citer, c'est que à l'époque où je faisais mes études, ça peut être encore le cas aujourd'hui, mais c'est beaucoup plus rare. Quand on goûtait dans des chais bourguignons, on crachait par terre. Alors il y avait une grande liberté à faire ça, c'est très, très rigolo. On en mettait partout, mais c'était assez libérateur finalement. Aujourd'hui, on a beaucoup appris de l'hygiène qui règne, notamment dans les pays du Nouveau Monde. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande, ils ont toute une culture de production de produits laitiers. Et donc, quand on va dans un chai en Nouvelle-Zélande, on a la charlotte sur les cheveux, on a les petits bouts de plastique sur les chaussures. Il n'y a pas une bactérie, on pourrait manger à même le sol. Vous voyez, donc ce sont deux approches qui sont complètement différentes. Donc, à la fois, en Bourgogne, on entretient un climat bactériologique, puisqu'elles sont nécessaires. Ces bactéries, donc ces levures, ne serait-ce que pour enclencher les fameuses fermentations qu'on a nommées tout à l'heure. Et dans des pays du Nouveau Monde, il y a une approche parfois qui est beaucoup plus sanitaire. Et puis, les influences, il y a beaucoup d'échanges aujourd'hui, hein, le monde est très mobile. La globalisation fait que on observe ce qu'on fait chez le voisin et on peut apprendre des deux côtés de l'hémisphère.
Je propose quand même d'aller un peu au cuvage.
Hein, si vous voulez.
Oui, parce que le cuvage, on y est bien au cuvage.
Alors ça, c'est le pied de cuve. C'est un levain. On a récolté du raisin la semaine dernière, dans cette petite cuve, et il est parti en fermentation. Et c'est pour ça que ça blougloute. L'autre grande cuve étant partie en fermentation, il y aura une ambiance fermentaire dans tout le cuvage, et là on n'aura pas besoin de faire la même opération pour les cuves suivantes. Il y aura des levures qui vont se promener dans tout le cuvage.
C'est volatile,
en fait. Les levures, ça se balade dans l'air, il y en a plein les murs. C'est pour ça que la vinification, c'est aussi lié à l'endroit où elle se fait.
On est pas mal, ça sifflote derrière, on sent qu'on est dans une ambiance.
En tout cas, les grands esprits se rencontrent, parce que je ne savais pas que vous alliez diffuser cet extrait, mais c'était très à propos.
On y est bien, ça les levures partout, on aime bien ça dans le goût du monde. Si le vin était une histoire de classe sociale, comme les verres dans lesquels on les boit, des endroits aussi qui disent le vin dans notre société, sa place.
Alors, de classe sociale, oui, mais aussi de plus généralement, hein, c'est un produit qui a des classes démographiques, qui va séduire différentes classes démographiques selon le type de vin, et différentes classes psychographiques, psychologiques. C'est-à-dire qu'on va se définir aussi à travers sa consommation de vin. Donc quand on dit par exemple qu'on aime telle ou telle région, qu'on ne boit que du vin nature ou qu'on ne touche pas au vin nature, en revanche, on s'offre une définition de soi-même d'une certaine façon. Ça reste un produit de luxe. C'est un produit d'imaginaire et on se projette aussi vers cet imaginaire-là.
Dans votre livre, il y a un chapitre qui parle des villages et des habitants de ces villages. Vous passiez votre temps dans les chais à goûter du vin, puisque c'est votre métier, puis vous avez réalisé que ces villages et ces terres, ces pierres, vous ne les voyiez pas. Qu'est-ce que ça a apporté de différent que de donner corps au vin grâce au village?
Ça change tout, en fait, le fait de s'imprégner de l'air d'un village, d'aller rencontrer les habitants. Ce sont eux aussi, ces pierres, souvent sont celles du terroir aussi qui est en dessous. Donc ça donne beaucoup d'éléments. Et je me souviens, même souvent, quand une région va m'inviter pour faire un reportage, au début, je me laissais faire, hein, finalement. J'étais invitée, j'allais quand même pas. Mais je passais mon temps enfermée dans des cuves. Et puis je me disais, bah, c'est dommage parce que j'ai pas vu quelles étaient les autres cultures, j'ai pas été prendre un café au bar du village, j'ai pas eu le temps de visiter le monument du coin. Et c'est dommage parce que ça donne plein d'infos. Mmh. Ça donne plein d'infos. Ne serait-ce que l'environnement naturel qui entoure les vignes, qui encadre les vignes, c'est hyper important. Par exemple, souvent, les vignobles qui se situent à proximité de forêts d'eucalyptus, vous allez retrouver dans le vin un goût d'eucalyptus. On parlait de la Corse tout à l'heure, les odeurs de maquis dans les vins corses sont très fréquentes. Les odeurs ou les saveurs d'embrun marin un peu salines, comme ça, se retrouvent beaucoup. Donc, observer le territoire. Les maisons, bah, c'est simple, les maisons sont souvent bâties du même terroir que celui dans lequel poussent les vignes. Donc il y a une correspondance qui est assez innée. Et on a perdu, je pense, cette faculté d'observation pour être juste dans, allez, le produit final. Mmh. Le produit final exprime un tout. Il exprime aussi l'énergie d'un vigneron ou d'une vigneronne. Sans l'homme, il ne faut pas oublier qu'il n'y ait pas de vin. Là, c'est la mode de dire un vin sans intervention, sans intervention. Mmh. Sans intervention, il n'y a pas de vin, tout simplement.
Et la personnification des vins aussi, la façon dont votre album de famille.
J'en parle dans le livre, effectivement, parce que bah, ça me frappe aussi. Et le but de ce livre, c'était de raconter plein d'anecdotes qui, je trouve, permettent de comprendre le vin d'une certaine façon.
Et qui sont très éloquentes aussi, cet album de famille, si vous nous le racontez.
Alors, j'ai une vigneronne très connue chez qui je suis. Et qui m'a fait visiter son chai, qui m'a fait déguster les vins, etc. Et qui m'a montré un album de famille comme on montre un album de vacances, finalement, en me montrant des photos de ces différents ceps de vignes pendant une demi-heure. J'ai trouvé ça à la fois très saugrenu et très touchant. Parce que c'était comme si elle me montrait des photos de ses enfants, finalement. Et je me suis dit, ok, oui, il y a un lien, il y a une correspondance qui devient presque filiale. J'aime bien cette métaphore qui dit que souvent le maître ressemble à son chien. Eh bien, le vigneron ressemble, ou la vigneronne ressemble souvent à son vin aussi. Et c'est un très bon signe.
Et lors de vos voyages, est-ce qu'il y a comme ça un endroit qui vous a... C'est toujours la question piège, ça. Y a-t-il un endroit qui vous a marqué, lequel vous vient à l'esprit?
Il y en a plein. Le monde est peuplé d'endroits absolument viticoles fabuleux. Je parle du Barolo dans le livre que j'adore. L'Italie, absolument exemplaire comme pays viticole. Et plein de pays qui sont assez fascinants, même certains qui produisent très peu de vin, mais qui ont un modèle économique lié au vin qui est original, comme la Suède, qui a un monopole d'État. Vous ne pouvez pas acheter de vin en Suède, sauf dans des boutiques qui appartiennent à l'État, ce qui s'appelle les systèmes Bolaget, qui sont des gros acheteurs, puisque forcément, il y a un certain nombre de boutiques. Et donc, comme ça, voilà, le vin est assez fascinant sur tous ces aspects qui sont très différents. Très différents. On fait même du vin à Tahiti. Je n'ai pas encore été, mais j'ai pu goûter le vin de Tahiti. Voilà, donc il y a une richesse que je voulais montrer dans le livre aussi.
On termine en cave peut-être.
Allez, allons-y.
Parce que le cave, c'est un lieu d'inspiration. En tout cas pour vous, c'est un lieu d'inspiration. Qu'est-ce qui vous plaît dans la cave? Est-ce que c'est son...
Je fantasme ma cave rêvée. C'est mon projet aussi de vie, d'avoir une belle cave.
Et de manière optimale, c'est question humidité, question lumière, est-ce qu'on met des plantes dans sa cave?
L'optimal est très difficile à avoir, sauf si vous êtes dans certaines régions françaises. C'est la cave de tuffeau, 12 degrés stable toute l'année, un taux d'humidité stable toute l'année aussi, pas de vibrations, pas de l'obscurité, pas de produits chimiques aussi dans sa cave. Voilà, ça c'est super. Donc si vous êtes dans les caves de tuf, peut-être qu'on en trouve dans la Loire, voilà, ça c'est génial. Voilà. Et peut-être bientôt elle va arriver, voilà.
C'est quoi alors ce plat?
Je vais faire un poulet rôti, mais je cherchais différents plats parce que l'autre il me paraît simple au grand. Donc je mets des herbes, tu vois, comme ça.
De la sauge, du thym,
voilà.
Petit éloge du vin de Gabrielle Vidzavone aux éditions Les Pérégrines. J'en profite pour rappeler que vous êtes lauréate du prix Kononski de la gastronomie et du vin, conférencière et professeure. Merci à Alice Ménard et Guillaume Munier pour la réalisation et la mise en onde de ce goût du monde, disponible en podcast avec Pure Radio ou votre appli préférée. Quand vous le voulez, très bonne semaine à tous. Merci, j'ai oublié de le dire, à Lucas Beria qui nous a permis de nous rencontrer.
Merci.
On va pas le tourner dans le même sens. Hein.
Comment ça?